60% des Français actifs, qui ont donc un emploi, qui déclarent que le travail tient aujourd'hui une place moins importante ou secondaire dans leur vie. C'est un sondage IFOP de septembre dernier sur les rapports des Français au travail, un sondage commandé par votre fondation Jean Jaurès, Jérémy Pelletier. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est une évolution conjoncturelle post-Covid ou vous y voyez une évolution plus structurelle du rapport au travail?
Bon, évidemment, et ça a été très bien dit d'ailleurs dans votre magnéto, la crise sanitaire, ça a été un grand moment de réinterrogation collective sur notre vie, sur le sens de notre vie. Évidemment, l'élément peut-être le plus impacté, le plus réinterrogé durant cette crise sanitaire, c'est en effet le travail. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que vient beaucoup d'ailleurs dans le débat public une demande de rééquilibrage entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et en effet, on le voit, et c'était
déjà le cas. C'est un mouvement de fond pour vous.
C'est un mouvement de fond qui était déjà vrai avant la crise sanitaire. Et en effet, quand on regarde finalement le temps long, les tendances sur le long terme, on s'aperçoit qu'en effet, le travail est beaucoup moins statutaire et beaucoup moins identitaire. En gros, pendant longtemps, et notamment en France, c'était une valeur cardinale, c'était une valeur centrale. Absolument, on se définissait beaucoup par le travail. La première question qu'on vous posait quand on vous rencontre, c'est: et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en effet, cet élément-là, il est beaucoup moins prégnant, il est beaucoup moins présent, notamment parce que finalement, dans une société comme la nôtre, c'est le hors-travail qui structure beaucoup plus le travail par rapport aux années précédentes, et aussi parce que une partie du travail a perdu de son intérêt, une partie du travail a perdu de sa substance. En gros, c'était très intéressant, vous interrogez les actifs français dans les années 90 et vous leur demandiez: est-ce que la balance, elle est équilibrée entre ce que vous donnez au travail et ce que vous en recevez? Vous aviez une majorité d'actifs qui considéraient que oui, aujourd'hui, le rapport est totalement inversé.
Mais le salaire, c'est surtout ça en fait. C'est cet avantage, c'est permettre l'indépendance financière que permet le travail. D'abord, c'est son indépendance financière, et après, deuxième étape, c'est permettre le fonctionnement et le financement de la protection sociale. On n'a pas trouvé en fait un autre modèle qui puisse individuellement nous permettre de vivre et collectivement de redistribuer une partie du travail effectué pour assurer un minimum, une garantie pour tous en termes de santé, en termes de protection, on va dire de protection sociale. Donc je comprends bien qu'aujourd'hui la question se pose sur le rapport au travail, le sens au travail. Je pense que c'est une bonne évolution. On va vers ces questions nous poussent à nous réinventer, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas oublier que le travail et donc le salaire a ses vertus.
Rêveurs, des utopistes, vous êtes déconnectés. Mais on disait ça de ceux qui, au siècle dernier, à la fin du 19e, par exemple, voulaient la semaine de 40 heures, voulaient les congés payés. Moi, j'assume la dimension utopique de mon propos tout à fait. Moi, mon désaccord profond, c'est que, avec ce qui a été dit, c'est que moi, je pense qu'il faut en finir avec la valeur travail. Et que je crois que ce à quoi on est en train d'assister, c'est l'effondrement d'un mythe. Et ce mythe, c'est le travail émancipateur, le travail comme une chose formidable, comme un moyen d'être heureux, d'être libre même. Moi, ce que je dis, c'est que s'il y a bien un endroit où on n'est pas libre dans notre vie, c'est le travail.
Ça l'est pour certains, émancipateur et heureux et joyeux même.
Pour beaucoup de Français en tout cas, le travail, c'est de la souffrance, c'est du harcèlement, c'est l'aliénation de toute manière. Puisque le travail, par définition, c'est j'abandonne ma liberté contre salaire. Donc le travail en soi est une aliénation. Et ça, bon, ça fait longtemps qu'il y a des penseurs qui réfléchissent à ça, des sociologues, etc. Donc moi, ce que je dis simplement, c'est que il faut finir avec cette idée de valeur travail et surtout en finir avec cette idée que finalement nous n'avons de valeur que parce que nous sommes productifs. Parce que derrière, il y a cette idée un peu de l'utilité sociale, parce que c'est un peu ce que vous disiez, madame, c'est-à-dire il faut être utile à la société, etc. Et pourquoi, on y reviendra, mais pourquoi ça se cristallise autour de la réforme des retraites? Parce que la réforme des retraites, c'est ça. C'est vous allez travailler 2 ans de plus pour être utile à votre pays, pour faire baisser le déficit, etc.
Comme si pour financer la retraite.
On était réductible à quelques points de PIB, etc. Et revendiquer, juste en une phrase, revendiquer le droit à la paresse, c'est justement dire non, nous avons une valeur autrement que parce qu'on est productif. Et que moi, le droit à la paresse, c'est le droit de ne rien faire, de ne pas être utile et de vivre pour soi et d'avoir du temps pour soi et du temps libéré.
Alors, réaction de l'économiste, paresse, c'est l'inactivité. Il faut savoir que l'inactivité en France, c'est souvent de l'activité non rémunérée. Je pense aux femmes au foyer qui, effectivement, s'occupent des tâches quotidiennes de leurs enfants. Elles sont non rémunérées et pourtant, elles travaillent toute la journée. Et on peut considérer que ça, c'est de l'inactivité et ça l'est, hein, économiquement. Automatiquement, on met ces personnes dans l'inactivité. Et c'était tellement, elles étaient tellement, j'imagine, épanouies que depuis les années 70, depuis qu'elles ont accès au marché du travail, il n'y a pas eu de mouvement en arrière. Hein, parce que quand même, je répète, le salaire permet quand même l'indépendance financière. Il ne permet pas uniquement à s'aliéner vis-à-vis de son entreprise. Il y a quand même la première fonction qui est peut-être un peu primaire, mais ça permet de vivre, de manger, de se loger. Donc on n'a pas trouvé d'autres. Ouais. Et après la paresse, comment demander à la solidarité de payer les loisirs des autres? Très honnêtement. Comment? Alors la paresse, financée comment?
Vous répondrez après, mais on voudrait quand même la réaction.
Une question. Ce qui est beaucoup critiqué, ce qui est beaucoup remis en cause, c'est en effet les conditions de travail. Ce qui est devenu le travail au cours des 30 dernières années. Globalement, et ce au quoi on assiste en fait au cours des 30 dernières années, c'est une intensification de la place du travail, due notamment au numérique, due à la robotique, et en gros une intensification du rythme de travail, une intensification des cadences. C'est pourquoi
l'intrusion du travail chez vous, dans votre
absolument,
vie privée,
dans votre vie privée. Ouais. Mais c'est pour ça que la notion cardinale, la notion qui est très présente dans les débats autour de la réforme des retraites, c'est la question de la pénibilité. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré ce qu'on pourrait croire, en 30 ans, on a triplé le nombre de personnes qui disent exercer un travail pénible, notamment lié en effet à cette intensification de la place du travail. Ça, c'est le premier élément. Après, sur la paresse, il faut quand même faire très attention parce que les gens qui sont dans les cortèges, par définition, c'est la France du travail. C'est pas par définition ce qu'on pourrait qualifier avec des abus de langage, avec des facilités de langage, une France désassistée, une France des paresseux, etc.
Mieux travailler et pas moins travailler.
Absolument. Et historiquement, justement, à l'époque de Paul Lafargue, et quand vous reprenez aussi les textes de Jaurès, de Blum,
Paul Lafargue qui avait écrit l'éloge de la paresse, qui était le gendre de Karl Marx.
Absolument.
Bertrand aussi a écrit un grand livre, Éloge de l'oisiveté.
Il y a une fierté historiquement ouvrière par rapport au travail. Une fierté de son travail. Et d'ailleurs, l'identité ouvrière, l'identité de ce qu'est le peuple de gauche historiquement, en effet, elle passe par le travail. Donc, ce sujet du travail, il n'est pas, je dirais, remis en cause d'un revers de main par les gens en fait, qui sont en train de manifester. C'est simplement les conditions de travail.
Moi, je suis en désaccord surtout avec Fabien Roussel. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour François Ruffin, mais je pense qu'il se trompe aussi là-dessus. Mais je pense qu'il faut vraiment sortir du paradigme du travail. Toute l'histoire de la République, si on est très factuel, c'est l'histoire de la réduction des gens de travail. Complètement le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée même de retraite, qui est apparue quand même il n'y a pas si longtemps, et puis ça s'est matérialisé à l'après-guerre, vous avez des congés payés, la semaine de 40 heures, 35 heures. Donc toute l'histoire républicaine, en tout cas depuis 1900, c'est l'histoire de la réduction de temps de travail. Donc il y a bien un sens de l'histoire qui est de dire le travail, c'est important, évidemment, selon les gens, etc. Mais l'important aussi, c'est d'organiser une société dans laquelle, en effet, l'être humain pourrait se réaliser autrement que par le travail. Et pourquoi je dis ça? C'est que on fantasme un peu aussi le monde du travail. Vous parliez de la France, et vous faisiez un peu cette distinction, même après si vous en êtes défendu, mais vous avez fait cette distinction, c'est la France du travail, donc ça veut dire qu'il y aura une France du non-travail, donc finalement il y aurait les assistés, ceux qui bossent, ceux qui... Et ça c'est délétère, parce que je pense que quand vous dites la France ouvrière qui était fière de leur travail, je pense que la France ouvrière souffrait dans son travail, et que je pense que les ouvriers ne sont pas forcément très très contents de faire un travail qui est épuisant, qui est fatigant, qui est pénible. Et je rappelle quand même que entre les plus riches et les plus pauvres, il y a une espérance de vie qui est une distinction pour les hommes, de 13 ans. Donc le travail pour certains tue.
Mais juste une question, un agriculteur.
Moi je pense qu'il faut en finir avec la valeur travail, mais pas mettre fin au travail. Je pense déjà que réduire le temps de travail encore davantage, et vous savez la semaine de 4 jours par exemple, expérimentée en Belgique par exemple, et ça fonctionne bien. Moi je pense bien qu'on peut réfléchir aux 32 heures.
La retraite à 55 ans.
Peut-être pas, mais je pense par exemple pour les métiers pénibles, enfin la retraite à 60 ans, oui, et pour les métiers pénibles, moi je suis presque prêt à dire pourquoi pas à 50 ans, etc. La question du financement, évidemment,
il n'y a pas de danger en tout cas de matière économique et comptable. Moi je suis pour des avancées. Le problème en France, c'est que en fait très peu de gens produisent énormément, et en fait la responsabilité est entre de la production, je parle, et trop petit nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on arrive trop tard sur le marché de l'emploi et on en repart trop tôt. Ce qu'il faut, c'est en fait diluer la masse salariale, qu'il y ait plus de gens au travail, pour avoir plus de quantité. Ça ne veut pas dire en rajouter plus d'heures sur les mêmes personnes. Attention, c'est pas ça. En France, on voit bien que la réalité, c'est qu'on n'a pas assez de gens au travail.
Et l'éloge de l'inutilité et pourquoi on devrait avoir un droit à l'inutilité, c'est qu'aujourd'hui, et notamment avec Emmanuel Macron, il y a cette idée vraiment qu'il y a les productifs et les improductifs, et que finalement, il y a des citoyens des deux premières zones et des citoyens de seconde zone qui seraient donc soit les assistés, etc. Et c'est ce paradigme de l'utilité sociale, je pense qu'il faut balayer d'un revers de main. On n'a pas moins de droits parce qu'on n'est pas utile à la société, etc. Et encore une fois, la valeur d'un être humain ne se juge pas à sa question productive. Et je trouve que la question écologique, on ne peut pas en faire le. Et c'est la seule chose que je parlais de la décroissance.
C'est le programme des Verts, d'ailleurs.
Travailler toujours plus, etc. En prenant absolument pas en compte la question des ressources, la question de la limitation des ressources et la question qu'on est en train d'aller droit dans le mur, c'est évidemment conjuguer toutes les tares finalement que la société.
C'est une forme de décroissance dans le travail.
Absolument, je pense que ça se réfléchit dans le cadre
de Jérémy Pelletier.
Intéressant, c'est que ça permet aux salariés qui exercent des métiers non télétravaillables, finalement, de bénéficier, de jouir et de profiter ce dont profitent tous les gens dont on a beaucoup parlé depuis la crise sanitaire, à savoir des week-ends de 3 jours grâce au télétravail, parce qu'on va pas se le cacher, c'est ça aussi qui se passe, des semaines de 4 jours grâce au télétravail, etc., etc. Donc la semaine de 4 jours, elle permet ça. Elle permet finalement aux classes moyennes de travaux manuels, aux classes moyennes de professions non télétravaillables, par définition, de jouir ce dont jouit, notamment depuis la crise sanitaire, tout un tas d'individus. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on croit que la paresse, c'est d'abord avant tout justement les classes les plus défavorisées, les gens qui se foutent de travail, alors qu'en fait la paresse, c'est d'abord avant tout une jouissance des plus bourgeois. C'est une liberté dont peuvent se prévaloir en fait les plus bourgeois. J'ai retrouvé une
phrase
d'une
minorité
socialiste. Il dit le fardeau accablant des uns et la paresse insupportable des autres. Et donc je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans le débat, c'est l'inégalité entre le fardeau des uns, en effet ceux qui sont obligés de porter le fardeau, les travailleurs de première ligne, ceux qui manifestent, et en effet ceux qui peuvent jouir d'une certaine paresse, d'une certaine légèreté, d'une certaine flemme. Il faut être bourgeois pour avoir la flemme, et c'est ça que je trouve intéressant dans le débat.